Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
On a tous été des enfants un jour, mais on oublie parfois ce que les adultes représentaient alors pour nous. Car si les grandes personnes sont là pour aider, accompagner, encourager et prendre soin, elles peuvent aussi surveiller, corriger, empêcher, ridiculiser, voire punir. D'ailleurs, un enfant idéal n'est-il pas un enfant calme, obéissant, sans colère ni crise ? Impossible pour un jeune cerveau encore en construction. Alors en avant pour une heure d'éclairage scientifique et de pistes de réflexion pédagogique pour une éducation adaptée et sans violence. Et avec nous en plateau pour cette émission, nous recevons Maëlle Guidou, bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas Homais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux médecins généralistes, enseignants à la faculté de médecine de Nantes, dans laquelle vous vous concentrez notamment sur l'axe de formation et de recherche sur les violences faites aux enfants, ce qui vous a mené à ce fameux sujet des violences éducatives ordinaires, souvent abrégées en VEO. Nous entendrons également dans cette émission Corinne Prézélus, accompagnante en parentalité, qui nous donnera deux petites astuces pour gérer et prévenir des débordements, aussi bien du côté des enfants que des parents. Et enfin, nous ferons un petit tour dans un lieu d'accueil parents-enfants, le Café des Enfants, situé rue de la Ville-en-Pierre à Nantes, où nous y avons rencontré des enfants, des parents et des salariés de l'association À l'abordage, qui propose des ateliers d'accompagnement à la parentalité. Préparez-vous à faire le plein de témoignages déculpabilisants, de vraies pistes de réflexion sur la relation adulte-enfant. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
Publié tous les deux ans, le dernier baromètre IFOP de la Fondation pour l'Enfance faisait état en 2024 d'une légère hausse des violences éducatives dans la sphère familiale. Sur un échantillon de 1007 parents d'enfants de 0 à 10 ans, 81% d'entre eux ont déclaré avoir eu recours à au moins une violence éducative ordinaire dans la semaine précédant l'enquête. Ils étaient 79% en 2023. Alors dans l'ordre des violences les plus fréquemment utilisées, on retrouve crier très fort, être mis au coin dans sa chambre, priver de quelque chose car l'enfant n'obéit pas, promettre quelque chose en échange d'obéissance, utiliser la menace, etc. La moitié des sondés de cette enquête annoncent connaître et savoir identifier ce que c'est qu'une violence éducative ordinaire, mais les exemples qu'ils citent rejoignent alors souvent les violences corporelles, comme la gifle ou la fessée. Tous ces chiffres et conclusions sont tirés d'une enquête qui est disponible dans la description du podcast. Cela reste des données d'introduction assez factuelles qui restent loin des réalités de la parentalité. C'est facile de s'offusquer des violences éducatives ordinaires, mais c'est bien plus difficile d'essayer d'analyser ses propres pratiques et de s'essayer à des alternatives dans une société qui légitime encore les violences faites aux enfants. Maëlle Guidou et Nicolas Homais, vous êtes médecins généralistes. Vous voyez des familles, des parents, des enfants passer dans votre cabinet. Alors déjà, est-ce que vous pouvez rappeler ce que comporte réellement ce terme de violence éducative ordinaire au-delà de la gifle ou de la fessée? Et puis vous, dans votre pratique de médecin généraliste, qui vous rencontrez? Vers quelle situation vous faites face?
Donc effectivement, les violences éducatives ordinaires, c'est souvent un ensemble de pratiques coercitives, punitives, qui sont utilisées dans un but supposé éducatif. Donc elles sont perpétuées, entre guillemets, pour le bien de l'enfant, pour le faire obéir, par la peur, par la menace, par la souffrance ou par la douleur, et ainsi lui faire adopter le comportement que l'on estime, nous en tant qu'adultes, comme le bon. Elles sont ordinaires parce qu'elles sont très fréquentes, elles sont banalisées effectivement dans notre société, parfois même elles sont encouragées. On a tous entendu des petites phrases qui justifient ces violences. Tiens, ça te remettra les idées en place, moi aussi j'en ai eu, j'en suis pas mort. Et donc nous, ce qu'on voudrait rappeler à la fois dans notre volonté d'apporter une pierre à cette discussion scientifique, c'est effectivement de déculpabiliser les parents et de bien distinguer deux choses. C'est les violences qui sont involontaires, qui sont ponctuelles, qui résultent à certains moments d'une surcharge, d'une fatigue du parent, d'un stress important, et qui sont effectivement réparables et dont la relation, le lien de sécurité entre l'enfant et son parent est tout à fait restaurable, à contrario des violences qui sont très répétées, qui sont intentionnelles, où l'enfant est vu par l'adulte comme un être à dresser, à faire obéir, et dans ce cas-là, on a des conséquences dommageables sur le plan développemental qui sont beaucoup plus importantes.
Oui, donc il y a des fatigues parfois parentales ou de l'enfant, et donc là, bon, ça mène malheureusement à des violences ordinaires, mais c'est pas volontaire. Et puis il y a des pratiques sur le long terme qu'on voit à chaque fois, des façons de faire qui là sont vraiment dommageables.
Et puis un continuum qui est aujourd'hui bien documenté entre la violence éducative ordinaire par laquelle on commence au sein d'un foyer, et ensuite les maltraitances infantiles. Et donc agir en amont et travailler sur la prévention des violences éducatives peut-être un levier pour essayer de réduire les maltraitances et la banalisation de la violence ensuite à une plus large échelle.
Est-ce que vous, dans votre cabinet, je m'adresse à vous deux, vous avez des témoignages où vous voyez des choses et vous dites « Ah, ça rentre complètement dans le cadre de violences éducatives ordinaires » et comment, à ce moment-là, vous pouvez, en tant que médecin généraliste, avoir un impact ? Nicolas.
Les portes d'entrée, elles sont multiples. Les familles, les enfants se présentent en consultation. Soit le parent évoque spontanément certaines situations de difficulté, de relations qui se tend avec l'enfant, ou bien on le constate directement dans la consultation. Qu'un enfant arrive, va dans tous les coins du bureau, tous les médecins généralistes ont connu ça. Et comment le parent va réguler ou ne pas réguler ce comportement, la manière dont il va s'y prendre, ça donne beaucoup d'indications sur comment il fait aussi au quotidien. Donc parfois on est juste témoin de ce qui se passe tout le reste de l'année ou de la journée. C'est une petite fenêtre sur leur réalité. Mais nous on porte aussi l'idée que le médecin généraliste peut, a la possibilité d'aller chercher aussi ces difficultés activement, parce qu'elles ne sont pas forcément rapportées spontanément non plus par les familles. Les familles fonctionnent comme elles fonctionnent. On part du principe que chacun fait du mieux qu'il peut, malgré tout, dans son contexte, avec ce qu'il a en tant que parent, et l'enfant aussi fait ce qu'il peut.
Et donc vous, en tant que médecin généraliste, pendant une consultation, vous pouvez être amené à poser des questions de comment ça se passe à la maison, est-ce que c'est facile, est-ce que parfois vous êtes fatigué, quelles sont les questions que vous pouvez poser pour explorer ces comportements?
Ça dépend probablement de l'âge de l'enfant au moment de la consultation. En fait, on a tendance à questionner assez systématiquement tout un tas d'univers, l'alimentation, le sommeil, le mode de garde, le fonctionnement familial, l'environnement. Et donc, la question de l'éducation, elle vient comme une autre question ouverte. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que les deux parents sont d'accord sur la vision éducative qui est apportée? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans la gestion émotionnelle? Comment ils gèrent quand il y a une... Alors, certains parlent de crise, d'autres de tempête émotionnelle. Quand il y a en tout cas une émotion très forte chez l'enfant, qui peut aussi générer une émotion très forte chez le parent, comment se positionne-t-il? Et puis ensuite, en fonction des réponses, on peut étayer. Moi, je passe toujours le propos sur le développement de l'enfant, puisque c'est ce qu'on essaye de rapporter quand même à des faits factuels et scientifiquement démontrés, et se dire à 2 ans, il n'est pas capable de faire ça, donc on va essayer de travailler plutôt sur la reformulation positive. Après, s'il a 4 ans, ça va être différent parce qu'il est dans un contexte de socialisation beaucoup plus important. Et puis proposer aussi des outils qui sont à notre disposition, qu'on commence à bien maîtriser. Et je pense que les parents sont très contents de ressortir de la consultation avec des choses concrètes pour les accompagner.
des outils dont on va parler dans cette émission, hein, chers auditeurs, auditrices. Vous n'allez pas ressortir de là avec que des mauvaises nouvelles sur les violences éducatives ordinaires, mais aussi plein d'outils et de façons de faire. Donc il y a cette exploration, il y a un moyen de rassurer aussi les parents. Est-ce que parfois vous êtes face à des choses plus grandes que vous, on va dire, des maltraitances, et là il faut passer sur un autre, il faut diriger vers d'autres services?
Évidemment, ça fait partie du rôle et de notre obligation déontologique de le faire quand on le découvre. Donc ça, c'est un autre champ, on va dire. Donc voilà, mais c'est justement cette histoire du continuum, c'est-à-dire que nous, on est parti de s'intéresser aux maltraitances et en fait, spontanément, on est arrivé petit à petit aux violences éducatives ordinaires à travers les spécialistes qu'on a rencontrés, notamment qui nous l'ont largement suggéré. Et comme nous, en médecine générale, on est finalement au contact. On a la possibilité d'agir beaucoup plus dans la prévention. Voilà, avant aussi que ça dérape totalement. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la manière dont chacun d'entre nous apprend à être parent, ça compte. Est-ce qu'on a vraiment appris à être parent ou pas du tout? Est-ce qu'on improvise? Est-ce qu'on est en tant que parent? Probablement. Et parfois, on a des super inspirations et puis parfois un peu moins. Connaître le développement de l'enfant et avoir une réponse adaptée en tant qu'adulte, c'est bien sûr ce qu'on porte. Répondre aux besoins de l'enfant, c'est probablement la base, mais encore faut-il les connaître. Et puis, imaginer de comment on y répond concrètement en tant qu'adulte.
Oui, parce qu'il y a donc ce cercle familial que vous voyez dans vos cabinets, mais ces violences éducatives ordinaires, elles peuvent être partout. Elles peuvent être dans un club de sport, elles peuvent être à l'école, elles peuvent être dans un milieu, un loisir. Enfin, c'est des adultes avec des enfants, et si l'adulte lui-même, enfant, n'a connu que des violences éducative, peut-être qu'il n'a pas les bons modèles, on n'a jamais appris à relationner avec des enfants. Donc c'est aussi une question culturelle, en fait, quand on dézoome, il y a vraiment tout un côté culturel qu'il faut réapprendre.
Oui, en fait, dans les facteurs qui expliquent la perpétuation des violences éducatives, alors il y en a plusieurs, un des premiers et peut-être des plus évidents, c'est effectivement la transmission générationnelle, c'est-à-dire que l'adulte va reproduire une éducation qu'il a lui-même subie sans intention de nuire, mais parce que ça lui a été présenté comme normal, comme éducatif. Et on n'a pas forcément de remise en question de ce qui a été fait 30 ans ou 40 ans auparavant, voire les générations encore au-dessus. Donc tout ça engendre effectivement une banalisation sociétale, culturelle de la violence. Elles sont totalement minimisées, normales. Et si on repart de ce qu'on vient de dire sur le développement de l'enfant, c'est que la société exige de l'enfant quelque chose, un enfant calme, obéissant, qui gère tout seul son émotion, alors que biologiquement, son cerveau n'est pas capable de le faire avant un certain âge. Donc on va punir un enfant pour quelque chose qu'il n'est pas physiologiquement capable de faire. Et puis, il y a beaucoup de préjugés éducatifs qui sont aussi bien documentés, les croyances qui persistent autour de l'obéissance, de l'autorité, de la fermeté. Voilà, dans une société qui valorise aujourd'hui la performance, la rapidité, le calme, etc., le comportement et l'émotion importante de l'enfant va devenir gênante. Et donc, la violence éducative devient un outil de régulation sociale. Donc, on n'est pas uniquement dans une systémie familiale, on n'est pas sur une dérive individuelle d'un parent au sein d'un foyer, on est sur quelque chose de beaucoup plus global. Et peut-être dernière chose, les parents nous disent souvent en consultation, mais en fait, je ne sais pas comment faire autrement. Parce qu'il existe évidemment plein d'outils et de ressources pour proposer des alternatives éducatives qui ne sont pas violentes, mais qui sont peu connues, peu diffusées, beaucoup moins médiatisées via les réseaux sociaux, via les médias, que les affaires qui traitent de la violence. Donc tout ça participe à la pérennisation du...
Puis je vois aussi un peu, parfois quand on parle d'éducation bienveillante, un espèce de mal-être, ce serait du laxisme, ce serait une espèce de mode. Enfin, il y a aussi une espèce de critique sociétale vers une éducation sans violence, comme quoi ce serait, oh là là, ce serait vraiment des parents un peu bobos qui essaient de faire quelque chose d'un peu différent.
C'est vrai, mais nous, en tout cas, on ne s'est pas vraiment posé la question sur un axe de dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On a beaucoup essayé de coller à ce qu'on sait des recherches psychocomportementales vis-à-vis de l'enfant. Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas, en fait? Donc, quand on dit que faire obéir à un enfant, ça marche pourquoi? Ça marche pour lui, ça marche pour l'adulte. Qu'est-ce qu'on désire vraiment que l'enfant acquiert dans son développement? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment, qu'on a pu démontrer, qui va être vraiment aidant? Donc, voilà, je ne sais pas si on peut dire éducation bienveillante, etc., mais c'est éducation, en tout cas, délibérément, qu'on actionne comme quelque chose qui fonctionne pour l'enfant, pour le système de la famille, etc. Nous, c'est vrai qu'en tant que médecin généraliste, l'avantage, je pense, qu'on a, et c'est pour ça qu'on plaide pour le fait que les médecins généralistes peuvent s'en emparer, c'est qu'on est au contact aussi du contexte des familles. C'est pas, on fait toujours quand même globalement du mieux qu'on peut. Si on nous apprend à faire un petit peu autrement, probablement que chacun, chaque parent, voudrait voilà, tester des nouvelles choses. Et pourquoi pas ? Hein, parce que le contexte de la famille, c'est aussi que tout doit aller vite, par exemple. Mmh. Voilà, donc dans une vie moderne, souvent, faut aller vite.
Et un enfant qui fait une crise, ça ralentit.
Voilà, ou en tout cas, un enfant qui est dans une émotion voilà, qui apparaît, ou avec un comportement qui pose éventuellement problème, ça s'explique aussi parce qu'il a vécu avant dans sa journée. Mmh. C'est pas que à ce moment-là. Donc l'adulte, il doit aussi s'imaginer, ah oui, mais quelle journée il a eu mon enfant pour avoir ça? Quand ça arrive, c'est quoi les outils? Est-ce que j'ai réfléchi à comment je vais faire pour accueillir tout ça et puis le transformer en quelque chose de positif? Qu'est-ce que j'ai appris de ça en tant que parent? Bon. Donc ce contexte de la vie des personnes, il va influer aussi sur le niveau de patience. Parce qu'il faut de la patience, en fait, avec les enfants. Et il faut ralentir, parfois, il faut décortiquer le comportement dans ses détails pour y accéder, pour permettre à l'enfant d'y parvenir petit à petit.
Et donc, ça prend du temps. On a parlé de l'ambiance familiale, enfin, du contexte familial. On a dézoomé aussi sur le culturel. Passons un petit peu sur le politique, parce qu'il y a une loi qui est passée en juillet 2019 qui interdisait enfin les violences physiques et psychologiques sur les enfants. Une loi qui est inscrite dans le Code civil. Ce texte met fin au fameux droit de correction historique qui autorisait la violence pour corriger les bêtises, les colères, la désobéissance. Alors, on écoute un extrait du médecin Gilles Lazimi, médecin généraliste, coordinateur de la campagne de prévention Stop aux violences éducatives ordinaires. Il avait été invité cette année-là sur France Inter pour parler de cette prise de conscience politique qui avait mené au vote de cette loi contre les violences éducatives sur les enfants.
Ils comprennent aujourd'hui qu'un enfant n'est pas une bête fauve à dresser, très clairement, que c'est un être le plus faible, qui doit être protégé et qu'il faut absolument ne plus jamais utiliser toutes ces violences dites éducatives ordinaires, que sont les fessées, les pincées, les violences verbales, physiques,
oui, parce qu'on dit que la fessée est interdite, on le résume à ça, mais il n'y a pas que la fessée, en fait, dans le texte.
Oui, et puis la fessée, pendant longtemps, on a dit loi anti-fessée pour dévaloriser, pour minimiser, pour ridiculiser, alors que c'est un geste violent et qu'il n'y a pas, on ne doit pas toucher un enfant. Tout geste porté sur un enfant est une violence.
Et il n'y a pas que la violence physique, hein, dans
bien
cette
sûr,
loi.
Bien sûr, il y a aussi la violence verbale, les humiliations, et là aussi, cette loi, elle est symbolique, elle est très forte, elle est dans le Code civil, hein.
C'est pas rien. Qu'est-ce que ça implique, ça ?
Ça implique une prise de conscience, il y a deux codes, il y a le code pénal et le code civil. Le code civil, ça règle le fonctionnement de la société. Donc c'est majeur, et ça va avoir une influence pour amener les parents, sans les culpabiliser, il n'est pas question de culpabiliser. On avait des mauvaises méthodes, et ben on change de méthode. On avance très clairement, on connaît l'immaturité des enfants, les besoins des enfants, on a des études sur le cerveau qui montrent que ces pratiques peuvent être délétères pour la santé, peuvent être néfastes pour l'enfant, pour son devenir, pour sa croissance, pour ses apprentissages. On sait aujourd'hui qu'il ne faut plus les utiliser, donc on va aider les parents à ne plus les utiliser. On ne veut pas culpabiliser. 90% des parents sont bienveillants. Mais le fait qu'il y ait ce pseudo-droit de correction qui est jurisprudentiel fait en sorte qu'un certain nombre de parents peuvent dépasser la borne et amener des maltraitances graves aussi.
Voilà pour cet extrait de Gilles Lazimi, médecin généraliste et coordinateur de la campagne Stop aux violences éducatives ordinaires. Retour en plateau avec vous, Maëlle Guidou et Nicolas Homais. Cet extrait que l'on vient d'entendre, il a plus de 6 ans. Alors, est-ce qu'on voit une évolution? Est-ce que vous, dans votre cabinet, vous voyez de moins en moins de parents qui parlent de fessées, par exemple, ou qui savent que c'est interdit? Est-ce qu'on va, alors on va parler des solutions et de ce que les études scientifiques nous a appris juste après, mais est-ce qu'on voit quand même, dans ce point de vue culturel, des signaux qui passent au vert?
Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer et que, voilà, dont on n'a pas forcément, nous, toutes les réponses à notre échelle. Néanmoins, certes, c'est une avancée juridique majeure. Ça ne remplace pas l'évolution culturelle et sociétale nécessaire. Cette loi, elle a le mérite de, et la logique vraiment de soutenir, d'accompagner les parents, de n'être pas sanctionnante, de donner un argument supplémentaire pour le professionnel qui va s'intéresser à la question pour pouvoir légitimer son propos.
En tout cas, c'est sûr qu'une loi, ça dit une certaine conformité à laquelle on doit se soumettre dans une société. Donc, elle légitime tous les discours qui disent d'arrêter les violences. Donc, ça met quand même à l'aise de pouvoir se positionner dans une société qui a acté ça dans la loi, où l'enfant était la seule dérogation, quoi. Il y avait une dérogation à taper son enfant comme un droit de correction. Alors que tous les autres êtres vivants, on n'avait pas le droit. Donc, pour moi, ça reste quand même une base d'avoir pu faire réaliser ça dans la loi française.
Juste après la musique, on va se pencher ensemble sur le fameux développement de ce cerveau des enfants dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure, et surtout leur cortex préfrontal. Et on partira en reportage au Café des Enfants à la rencontre de familles prêtes à livrer leurs témoignages. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Et nous sommes de retour en plateau avec Maëlle Guidou et Nicolas Homais pour parler des violences éducatives ordinaires et du cerveau. Car oui, les débordements émotionnels, comme on peut les appeler, des enfants et jeunes enfants ne sont pas une volonté de nuire aux adultes, mais bien un signe d'immaturité de leur cerveau. Les avancées en neurodéveloppement permettent non seulement de mieux comprendre les comportements d'enfants dits en crise, mais également les conséquences néfastes et long terme des violences éducatives ordinaires qui leur sont proposées en réponse. La zone du cerveau qui nous intéresse particulièrement, c'est le cortex préfrontal qui ne devient mature qu'autour de 5 à 7 ans. Est-ce que c'est pour ça qu'on appelle l'âge de raison, l'âge de 7 ans? Je ne sais pas. Alors je me tourne vers les médecins généralistes qui sont avec moi en plateau. C'est quoi cette zone du cerveau? À quoi elle sert?
Alors effectivement, les données scientifiques aujourd'hui, elles sont très claires, elles sont convergentes. Les violences éducatives ordinaires, lorsqu'elles sont répétées, intenses, vont avoir un effet durable sur le développement. En fait, le cerveau, lorsque l'enfant naît, est en extrême développement, il est particulièrement malléable, il est plastique et il est vulnérable aux expériences quotidiennes, aux expériences sensorielles et émotionnelles qu'il va vivre avec les adultes qui l'entourent, et notamment les figures d'attachement, qui sont souvent ses deux parents. Et donc, chaque expérience, chaque jour, va modifier ses circuits neuronaux, sa production de synapses, une connexion entre deux neurones, et parfois même l'expression de ses gènes. Et donc, avant cet âge clé de à peu près estimé à 6 ans, certaines zones du cerveau, qui sont le cortex préfrontal ou le cortex orbitofrontal, ne sont pas matures. Et donc, elles ne permettent pas encore à l'enfant de réguler ses émotions, de contrôler ses impulsions. C'est ce que nous permet de faire des choix réfléchis, de prendre des décisions sociales ou encore de faire preuve d'empathie. Et donc, chez le jeune enfant, cette région n'étant pas encore pleinement fonctionnelle, il n'est pas capable de gérer seul une émotion forte, contrairement à un adulte. Et donc, une violence éducative, un geste banalisé du quotidien, va provoquer chez l'enfant un stress répété qui va stimuler une autre zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et cette zone va entraîner la sécrétion du cortisol, l'hormone de stress. Et les niveaux élevés quotidiennement de cortisol peuvent avoir un effet toxique sur la maturation des structures cérébrales en développement chez l'enfant. Alors il y a ce fameux cortex orbitofrontal pour le développement, pour la gestion des émotions, mais il y a d'autres zones qui permettent par exemple la mémorisation, les apprentissages. Des études ont montré avec des imageries cérébrales, par exemple, que certains enfants exposés à un stress chronique et ayant des taux élevés de cortisol ont un volume de cortex plus petit que d'autres enfants qui n'y sont pas exposés. Et donc les conséquences de ça, c'est que les enfants exposés à des violences répétées auront des capacités cognitives et scolaires statistiquement inférieures. Ça va augmenter le risque de troubles anxieux, de troubles dépressifs, à l'extrême de tentatives de suicide dans certaines études chez les adolescents notamment. Alors ça, c'est en lien notamment avec les problématiques d'estime de soi. Voilà, ça va avoir des impacts somatiques sur la santé cardiovasculaire, sur le développement de pathologies auto-immunes, sur les douleurs chroniques et sur tout un tas de maladies que nous, en tant que médecins généralistes, on voit tous les jours. Et puis, au-delà du côté corporel et santé pure, ce qu'on peut retrouver en effet négatif, c'est vraiment la reproduction de la violence qui est intégrée dans le fonctionnement psychique de l'enfant dès tout petit. Tous les enfants qui subissent des violences éducatives ne seront pas des adultes violents, évidemment, ce n'est pas du tout le propos, mais en tout cas, ça augmente le risque de banalisation de l'agressivité et du comportement violent.
Oui, j'imagine qu'un enfant qui, dans un supermarché, veut absolument un gâteau, il a faim, il a envie de ce gâteau, ah là là, tous ses copains ont ce gâteau, il veut l'acheter, mais sa maman ou son papa dit non, on va pas acheter ce gâteau, non, c'est mort, on l'achète pas, c'est pas dans la liste de courses. Mais donc, il y a une crise, mais pourquoi j'ai pas mon gâteau, mais il y a une frustration, donc il y a une colère, mais donc, les parents en face sont démunis, surtout au milieu d'un supermarché, une crise d'un enfant, bon, on s'en passerait bien. Et donc, ça crie, ça punit, donc il y a du stress, et donc, là, il y a un surplus émotionnel énorme du côté de l'enfant qui n'a pas le cerveau pour gérer cette émotion et cette frustration. Et donc ce stress après, s'il est quotidien, s'il est répété, en plus si le soir il refait une bêtise, sachant qu'il en a déjà fait une dans l'après-midi et que ça suit sur toute la semaine, ça devient un stress qui peut être quotidien, ce fameux cortisol. Et ce fameux cortisol a des conséquences long terme sur le cerveau et donc sur le mal-être. Ça ressemble à une machine infernale, c'est terrible. Et donc c'est vraiment cette mécanique qu'il faut réussir à couper, à empêcher pour pas avoir ces conséquences en cascade.
Oui, alors ça s'improvise pas toujours. C'est-à-dire que si vous êtes dans le supermarché et que vous n'avez pas prévu de plan B ou que vous savez pas comment vous allez faire si ça arrive, bah vous risquez d'improviser un comportement qui va en fait malgré vous empirer les choses et faire rentrer dans cette sphère cette spirale infernale comme vous dites. Donc ça se prépare aussi les situations plus difficiles que d'autres. Accueillir l'émotion de l'enfant en tant que tel, sans lui dire qu'il est mauvais ou méchant ou capricieux, mais juste avoir le regard posé de l'adulte sur « tiens, voilà une émotion bien intense ». On n'irait pas jusqu'à dire que son cortex orbitofrontal n'est pas mature, mais on peut dire en tout cas que mon enfant reste jeune et que donc je vais l'accompagner là-dedans. Bon, à 2 ans, il suffit de le distraire sur autre chose. Souvent, c'est déjà pas mal.
Ah oui, c'est pas mal comme technique. S'il y a un début de crise ou un début de frustration qui n'arrive pas à être géré chez un enfant de 2 ans, on peut essayer de trouver une parade en disant « ah, regarde autre chose dans cette allée, dans ce rayon ».
Ça peut être ça, mais ça peut-être aussi le fait d'avoir préparé avant l'enfant,
de
l'engager aussi sur juste la suite qui va venir juste après, avec quelque chose qui va disperser son attention sur autre chose que l'émotion qui arrive. Voilà, il y a plein de choses.
Tu es malheureux, mais on ne va pas acheter de gâteau, on l'a dit tout à l'heure, mais regarde, juste après, on va aller dans l'allée machin où il y aura des céréales, là tu pourras choisir des céréales, enfin voilà.
Il y a des très belles couleurs au rayon céréales.
Par exemple. En tout cas, en cas de crise émotionnelle, l'idée c'est pas de raisonner un enfant qui est submergé. Poser une limite ou éduquer à ce moment-là, ça n'a pas de sens. L'idée c'est vraiment d'apaiser l'enfant, de nommer l'émotion. Tu es en colère, ok, je suis là, je t'accompagne. Et Gilles Lazimi disait dans l'interview, c'est comme une casserole de lait qui bout, on va pas mettre un couvercle dessus, on va baisser le feu. Et bien, en fait, c'est, d'un point de vue émotionnel, c'est exactement ça. Le but, c'est de faire descendre cette émotion, de limiter la sécrétion de cortisol, d'éviter de sidérer l'enfant par la peur, par la menace, et au contraire, d'essayer de temporiser et de le sécuriser au maximum.
Parce qu'à partir de quel âge un enfant peut reconnaître déjà qu'il a une émotion forte, parce que parfois c'est difficile en tant qu'enfant de se dire ah oui d'accord, là je suis très en colère ou très frustrée, ou sans forcément reconnaître cette émotion, peut réussir à la gérer. C'est ces fameux 5-7 ans, c'est à 7 ans où on peut se dire bon là je vais peut-être pas faire une crise pour un gâteau.
Alors c'est très variable, en fait ça dépend surtout de comment les interactions parents-enfants ont été sécurisantes avant et à quelle vitesse a maturé ce cortex. Il y a des enfants qui déjà à 3-4 ans arrivent à bien nommer leurs émotions parce qu'ils ont appris à le faire, à dire là je suis en colère, je reconnais cette émotion, et donc dans ce cas-là on met en place une petite technique adaptée pour la gérer, ça peut être une posture de yoga, ça peut être... plein de choses, plein d'outils éducatifs qui existent. Souvent, c'est quand même à partir de 5-6 ans, effectivement, qu'ils arrivent à contrôler, à avoir une autorégulation qui soit quand même fiable. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de, à chaud, sécuriser, contenir. Par contre, à froid, c'est soutenir, expliquer un message, faire passer une information qui permettra d'éviter la reproduction du comportement.
Et ces techniques d'éducation sans violence, avec le moins possible en tout cas, qui permettent d'aider l'enfant à reconnaître aussi un besoin peut-être qu'il a, et d'aider le parent à mieux appréhender ces situations, est-ce que, à l'inverse des violences éducatives ordinaires, elles auraient des effets positifs sur notre fameux cerveau ?
On le suppose largement, puisque finalement vivre la peur, c'est probablement plus un problème que vivre de la joie, du réconfort, ou un câlin, ou un accueil, ou une acceptation. Certes, les enfants sont un petit peu différents de nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore devenus adultes, mais ils ont des émotions qui sont intimement et inévitablement humaines, comme les nôtres. Donc, il suffit de se rappeler de ce que ça fait de faire un câlin à quelqu'un ou de recevoir un câlin. En général, il suffit d'attendre une vingtaine de secondes pour ressentir ce que ça fait. Et puis, là, il y a la production d'ocytocine. L'ocytocine, c'est cette hormone qui fait du bien, qui est une hormone de satisfaction, de sécurité, d'engagement relationnel. Ce sont des êtres humains comme nous, donc ils aiment recevoir ce qu'on aimerait recevoir aussi.
Donc ne pas faire à l'enfant ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse.
Exactement.
Tout simplement.
En fait, les neurosciences ont montré qu'en miroir du comportement violent et de la production de cortisol, on peut avoir avec un comportement et une attitude empathique, bienveillante, respectueuse de l'enfant, sécurisante pour l'enfant, une sécrétion de cette hormone de l'apaisement, de l'amour, elle a plein de noms, l'ocytocine, ce qui lui permet un développement social, affectif, qui soit plus mature et plus abouti. Et toutes les études ont montré des enfants qui sont en meilleure santé psychique, physique, ont une meilleure estime d'eux-mêmes, des meilleures compétences sociales, parfois des meilleurs résultats scolaires. Et puis la sécrétion de cytocine aura aussi un effet bénéfique pour les parents en réduisant leur propre stress et en limitant le risque de surcharge.
Je suis en train de voir un des documents que vous avez préparé pour cette émission avec des exemples en fonction des âges d'un comportement qui peut déborder et puis de phrases que l'adulte peut dire en échange. Par exemple, à 2-3 ans, un enfant qui crie, qui arrive pas à se réguler, qui est en colère, au lieu de lui dire « calme-toi », et le « calme-toi », on l'entend partout, on l'a tous et toutes dit, dire « tu es très en colère ». Je le vois que tu es en colère. Ou dire, je te dis non, mais je suis là, je vais t'empêcher de taper. Donc, de noter en fait le comportement de cet enfant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de le reconnaître, etc. Donc ça, est-ce que ça peut presque aider l'enfant, alors j'ai envie de dire à maturer plus vite, ça veut rien dire, mais à comprendre plus vite ses émotions et donc à être plus tôt en âge de réussir à se contenir.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une question de posture et de regard, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le comportement qui est clairement parfois inacceptable ou en tout cas qu'on ne peut pas tolérer, de la personne qui produit le comportement, c'est-à-dire l'enfant qui est un sujet de droit et qui doit être in fine respecté. Et donc, nommer l'émotion comme une émotion et ne pas accuser directement l'enfant et le voir comme le seul responsable du problème, ça permet de décentraliser le problème et d'avoir une vertu pédagogique et éducative, en fait. Et donc, ça, on peut vraiment commencer à le faire dès tout petit. Chez les bébés, jusqu'à l'âge d'acquisition du langage, on sait que jusqu'à 18 mois, 2 ans, un bébé, quand il pleure, évidemment qu'il ne va pas manipuler son parent. En fait, c'est un mode d'expression et de communication. Voilà, un enfant de 18 mois qui va taper son frère, il ne tape pas consciemment pour avoir un geste violent. En fait, il est débordé émotionnellement. Donc, c'est ce regard-là qu'on incite à prendre l'adulte.
Il faut aussi rappeler que les parents ne sont pas seuls et qu'il existe des lieux où ils peuvent se retrouver pour échanger sur ces problématiques du quotidien parce qu'on les rencontre tous et toutes. On écoute le reportage. On est au Café des Enfants à l'abordage avec toi Elisa. Est-ce que tu peux déjà nous décrire un petit peu le lieu ?
Il y a le téléphone qui sonne pile au bon moment. Bah, le lieu est comme ça, est vivant. Des fois il y a le téléphone qui sonne, des fois on doit accueillir des personnes et en même temps prendre soin des gens qui sont là à l'atelier. J'ai l'impression pour moi que quand on pousse la porte, on se retrouve un peu comme dans une maison. Donc il y a deux grandes tables jaunes, il y a la cuisine avec un bar qui est ouvert, où là en ce moment il y a Claire, notre cuisinière, qui est en train de concocter le déjeuner de ce midi. Et puis quand on continue un peu plus loin dans la structure, il y a un espace qui est dédié aux jeux pour les plus grands et les plus petits. C'est l'endroit où en ce moment il y a un atelier de bulles sonores musicales où Barbara est en train de nous bercer avec sa guitare et sa belle voix.
Que c'est beau, c'est beau la vie.
C'est un lieu qui est très coloré, qui est très vivant. Et là, on a deux enfants qui sont à peine marcheurs, quelques adultes, des mamans aussi, les bénévoles. En fait, c'est un lieu d'échange où il y a tous les âges qui se retrouvent.
Oui, c'est ça. Alors, on est à la fois un lieu d'accueil enfants-parents, LAEP, mais aussi un espace de vie sociale, EVS. Donc, ça nous permet d'accueillir tout public, des tout-petits et des tout-petites, mais aussi des personnes plus âgées. Donc là, par exemple, il y a Marie-Vonne qui est avec nous ce matin, qui nous a dit tout à l'heure qu'elle avait 77 ans.
Et quelle activité on peut faire si on vient ici au Café des Enfants ? Là, il y avait la bulle sonore musicale, qui est toujours en cours d'ailleurs derrière nous. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont proposées dans la semaine?
Oui, alors on sort un programme mensuel, l'éveil musical, à des petits ateliers poterie, à des temps d'échange, beaucoup de temps d'échange autour des questions de la parentalité. Et c'est des ateliers qui sont soit portés par des bénévoles, soit des professionnels qui viennent au café. Mais en parallèle de ça, il y a toujours de l'accueil libre. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a un atelier qui est en cours, on va toujours accueillir les personnes qui viennent, leur présenter le fonctionnement, leur donner la possibilité de passer un moment privilégié avec leur enfant ou seule si elles viennent seules. Donc voilà, c'est un lieu qui reste ouvert de 10h à 18h30 avec un accueil inconditionnel.
Donc si vous êtes curieux, auditeurs, auditrices, passez, jetez une tête à l'abordage, le Café des Enfants qui est rue de la Ville-en-Pierre à Nantes, près de l'arrêt Moutonnerie du tram numéro 1. J'ai pas dit de bêtises?
Exactement, au 94.
Je m'appelle Jennifer.
Et vous êtes maman de
Harry, qui a 2 ans.
Est-ce que vous connaissez bien cette association ou c'est la première fois que vous venez ici?
C'est la première fois.
Et vous en pensez quoi pour l'instant?
Bah que c'est super. Je connais pas d'autres lieux dans le genre. Et c'est assez grand. Il y a beaucoup de jouets, donc les petits adorent. Et ce principe de de consommer sans se ruiner et en plus de pouvoir du coup aider d'autres personnes à mettre un peu plus dans la caisse, je trouve ça super. Il y a vraiment pas assez de lieux comme ça où on sait qu'on pourra venir avec son enfant, qui est pas forcément un enfant qui reste assis, parce que ça existe, hein, des enfants qui peuvent aller au resto, mais le mien non. Donc resto ou café classique, je peux oublier.
On parle souvent d'éducation bienveillante. Ça veut dire quoi pour vous ce terme ?
C'est plutôt en m'intéressant à la psychologie de l'enfant que j'ai compris que en fait il y avait que ça qui était valable. Bien sûr, les punitions ou la violence physique, ça marche sur le moment parce que les enfants ont peur, mais pas parce qu'ils ont compris en fait pourquoi c'est pas bien de faire ça. On peut déborder avec un tout petit. Moi, des fois, je le mets à l'abri dans son lit. Je vais dans une autre pièce, je respire et je reviens. Et là, je me dis, bon, tu es calmée, je suis calmée, on passe à autre chose. Mais oui, bien sûr, on est des humains. Alors, parfois, on crie alors qu'on sait que ça sert à rien.
C'est beau la vie.
Marie, vous êtes la maman de ?
De Thiago, qui a 4 ans presque et demi, et de Danoé, qui a 10 mois. Là, je suis en congé parental pour mon deuxième. Et du coup, je viens beaucoup. Souvent, c'est toutes les semaines. Par rapport à d'autres lieux, il est très accessible et du coup, il y a un public qui est très mélangé en fait. Très souvent qu'il y a des conversations qui arrivent dans lesquelles on échange. Soit ça peut aider pour avoir des conseils, mais je trouve que c'est aussi, ça fait aussi du bien de voir qu'on a tous les mêmes questions et les mêmes problèmes. Moi, comment je me suis mise vis-à-vis de mes enfants ? En fait, j'ai des sœurs et un frère aussi qui ont eu des enfants avant moi. Et du coup, j'ai vu un peu comment ils faisaient, puis comment ils galéraient aussi en tant que parents. Etc. Et donc c'est un challenge en fait, hein, d'être dans une éducation bienveillante en permanence. Et donc voilà, je me suis mis dans cet état d'esprit. Et puis après on cherche comment on fait au jour le jour. Je sais pas vraiment si j'ai des techniques, mais par contre il y a des choses par exemple que j'ai repérées de façon très forte. Alors surtout avec mon aîné, parce qu'en vrai quand même l'éducation bienveillante, pour moi je trouve que ça devient plus un challenge avec les enfants qui grandissent. Quand dans une situation je commence à m'énerver, en fait, ça ne va jamais aller vers le mieux, même pour lui. L'autre chose, c'est d'oser toujours dire à mon fils bah, que là, peut-être, j'ai trop crié, que là, je suis désolée, si machin. C'est vraiment un truc auquel je crois beaucoup, que ça aide beaucoup en fait, dans la relation, de pouvoir lui dire bah, là, j'étais fatiguée, j'ai trop crié, j'ai trop fait je sais pas quoi, et voilà.
Et là, nous avons Harry qui passe avec son petit tracteur bleu. Harry, 2 ans, qui vient pour la première fois ici au café avec sa maman. Voilà.
Merci à l'association de nous avoir ouvert leurs portes et aux adultes qui ont accepté de témoigner. On écoute Let Me Believe de Lux and Dad et on revient juste après pour conclure cette émission.
When you wake up and step in your shoes, you gotta grow, you gotta move with your body and learn to believe in the waves. You gotta choose, you gotta find different ways to go get the juice somewhere out of you. Zoom in the moment and loop it, yeah, loop it. Don't be stupid, be yourself, don't be afraid. Just can I get a hint? Do the thing, you do the best to the end, cause you know life goes like boom, boom, bang, boom, 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 bang. Make sure you bring enough good things to your brain. Don't complain too much, oh hey. Be aware of who you are, of who you are. Let me believe in me. Let me see underneath the shell. You bring with you all the time. Let me wish you to see the sun. Light up all your mind. Don't get stuck in the shadow. You've already won life's lottery. You only live once, that's motto. Let me believe in me. Gotta go get it. Time flies, hypnotize you with your eyes, baby. Lay down, getting high, smoking it. Figuring out how the hell the water's spinning. Wondering how there's so many sun up. Ba-da-ba-ba-ba. I don't care, I know my doubts are about to go big. I'm spending everything in it, that's how it is. I'll do this again 100,000 or even 1,000,000 times. If you could fly away, where would you fly? Would I even try? Million ways to choose a different path. On a different level, it's never too late for a totally different life. Let's keep in touch now.
C'était Let Me Believe de Lux and Dada. Avant la musique, nous étions en immersion au Café des Enfants, un lieu ouvert à tous et toutes où exerce notamment Corinne Prézélus, accompagnante en parentalité. Elle est venue dans notre studio il y a quelques jours avec deux pistes concrètes pour les parents qui nous écoutent pour aider à lutter contre les débordements. On l'écoute. Corinne Prézélus, merci d'être avec nous. Bonjour.
Merci, bonjour.
Vous êtes accompagnante en parentalité. Alors, c'est un métier qui semble tomber sous le sens et pourtant, ce n'est pas du tout fréquent. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste ce métier ?
Oui, complètement. C'est en effet un métier nouveau. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale. J'ai vraiment un rôle d'accompagnement des parents pour les aider à mieux comprendre les besoins de leurs enfants, à trouver ou à retrouver un équilibre familial plus serein. Et tout ça en cheminant dans un contexte de non-violence éducative, en essayant de cheminer vers moins de violence éducative. Souvent, quand il y a des moments compliqués, des comportements qui débordent, on se dit que on entend souvent des phrases comme « Ah là, mais qu'est-ce qu'il me fait ?» Comme si le comportement gênant était dirigé contre nous, contre le parent. Et en fait, si on se dit que l'enfant, il n'agit pas contre nous, mais vraiment pour lui, ça change complètement la donne et ça invite vraiment à changer de regard. On change de perspective pour... On ne va pas se demander pourquoi il fait ça, là, pourquoi il fait cette crise là au milieu du supermarché alors que 3 secondes avant tout semblait aller bien. Non, on va essayer de comprendre les émotions et les besoins qui se cachent sous ce comportement. J'aime bien l'image de l'iceberg où voilà, dans la partie qui dépasse, il y a ce comportement perturbateur, gênant, les cris, les émotions, enfin le comportement qui est difficile à accueillir. Et puis en dessous, quand on va sous l'eau, voilà, on va chercher les émotions et surtout les besoins. Et les enfants, voilà, nous sommes des êtres de besoin. Et quand on prend vraiment notre loupe quoi, pour être des parents chercheurs, ça change complètement la donne pour se dire qu'il ne fait pas les choses difficiles contre nous, mais pour lui, pour rétablir son équilibre intérieur. Et parce que, voilà, avec l'immaturité de son cerveau, il n'est pas en mesure de faire autrement à 3-4 ans que de se rouler par terre, là, en effet, dans un lieu public. Et ce n'est pas évident à accueillir et à vivre, mais c'est tout à fait normal. J'aime bien l'image de mettre des lunettes, en fait. On met des lunettes pour voilà, voir toutes ces petites et grandes violences éducatives ordinaires. Et on peut se dire, est-ce que là, ce que je fais avec mon enfant, est-ce que je le ferai avec un adulte ? Voilà, et si la réponse c'est non, bah là, ça peut vraiment nous questionner, de se dire, en fait, c'est pas OK. Pourquoi je me permets de faire ça à mon enfant ? Il y a vraiment tout un rapport de force qui est très présent dans les rapports adulte-enfant, dans notre société. Mais voilà, c'est vraiment tout ça qu'on vient travailler avec mon métier pour venir questionner justement le lien parent-enfant, la relation parent-enfant et voilà, cheminer vers plus d'horizontalité, plus de respect des droits de l'enfant et moins de verticalité, moins de rapports de force.
Pour sortir de ces rapports de force, c'est aussi sortir un petit peu de la course qu'on peut avoir. Une deuxième piste que vous conseillez était de prendre le temps, le temps de faire un truc génial, de prendre le temps de jouer.
Mais oui, trop souvent on se dit que le jeu c'est que pour les enfants et c'est clair que c'est le monde dans lequel ils vivent, ils respirent, ils grandissent, ils apprennent à chaque instant et en même temps voilà, en tant que parent, quand on prend le temps de rentrer dans l'univers du jeu, l'univers de l'enfant, c'est vraiment là où on peut nourrir le lien, nourrir l'affection entre le parent et l'enfant et c'est vrai qu'on fait dans notre quotidien, souvent effréné de parents, on fait mille et une choses pour nos enfants. On va l'emmener à l'école ou à la crèche, on va cuisiner, faire des courses, acheter des vêtements, gérer les rendez-vous médicaux. Mais on peut vraiment se demander à quel moment est-ce qu'on fait des choses avec notre enfant pour vraiment prendre le temps d'appuyer, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, d'appuyer sur pause et de se dire, OK, là, j'oublie mon portable, j'oublie voilà, toute la liste, voilà, longue liste de charges mentales qui nous encombre toujours au quotidien. Et vraiment, à quel moment je prends le temps de me poser avec mon enfant et même de me laisser guider par lui. En fait, il s'émerveille de tellement de choses, un jeune enfant. C'est assez magique de se laisser porter par ce regard d'enfant. Mais voilà, souvent, on ne prend pas forcément le temps de ça. Donc, j'invite voilà, les parents que j'accompagne dans mes ateliers à se reconnecter aussi à notre enfant intérieur et à prendre le temps de se connecter à notre enfant par le biais du jeu.
Donc deux pistes très précieuses, se rappeler que lors d'une crise ou d'un débordement d'un enfant, l'enfant n'agit pas contre le parent mais pour lui parce qu'il y a un besoin, et prendre aussi le temps de jouer avec l'enfant et pas seulement faire des choses pour lui dans cette to-do list qui n'en finit pas. Pour finir, je me demandais si vous auriez éventuellement des ressources, des conseils, des podcasts, des pistes, des livres, des lieux peut-être à conseiller aux parents et aux non-parents qui seraient intéressés par ces questions.
Oui, j'en ai plein. La difficulté, ça va être de choisir. Mais je me dis, voilà, pour retracer mon parcours aussi de maman, le premier espace qui m'a soutenue, c'était les associations autour de chez moi. Et puis d'aller vraiment vers les espaces de rencontre, les lieux ressources tels que les LAEP, les lieux d'accueil enfants-parents. La PMI aussi offre des espaces de ressources de soutien. Après, je pense à des podcasts aussi. Ils sont vraiment de super ressources. La matrescence de Clémentine Sarla, il y a 280 ou même plus épisodes, on ne sait pas trop par où commencer, mais tous les épisodes sont hyper précieux, hyper intéressants, hyper soutenants. Et puis je pense plus récemment à un podcast de Lolita Arrivé, qui c'est qui commande, qui vient vraiment questionner justement ce rapport adulte-enfant et la manière dont on perçoit l'enfant en France, dans notre société aujourd'hui, en 2026.
Podcast Qui c'est qui commande, disponible sur le site de France Culture et l'application de Radio France. Merci beaucoup Corinne Prézélus pour votre témoignage.
Merci beaucoup.
La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
C'était donc le témoignage de Corinne Prézélus. On la remercie et également pour ses ressources. On arrive bientôt à la fin de cette émission et je me tourne à nouveau vers mes invités, Maëlle Guidou et Nicolas Homais. Alors, pour les parents et les non-parents d'ailleurs qui nous écoutent et qui se disent « mince, mais les violences éducatives ordinaires, je suis en plein dedans, j'en ai dans ma tête, j'en fais avec des enfants, est-ce qu'il est trop tard ?»
Alors non, il est évidemment pas trop tard, on l'a dit tout à l'heure, le cerveau de l'enfant est extrêmement plastique. Alors cette plasticité cérébrale est plus importante avant 3 ans, mais elle persiste en grandissant. Et donc les modifications peuvent être réversibles si un soutien est apporté suffisamment tôt. Une réparation est possible, il n'est jamais trop tard. Dès lors que la prise de conscience par le parent est possible, est réelle, et l'arrêt du comportement violent, quel que soit l'âge, sera déjà bénéfique pour son développement. En tout cas, les recherches étayent ces propos, étayent le fait que les méthodes d'éducation positive ou en tout cas non violente, comme le renforcement du comportement adapté, le renforcement du comportement positif, l'apprentissage de la gestion des émotions sont bien plus efficaces et bénéfiques.
Le renforcement positif, c'est quand un enfant fait quelque chose de bien, lui dire c'est bien, c'est super ce que tu as fait, c'est ça, Nicolas ?
Oui, mais on pourrait dire que c'est potentiellement un peu technique. C'est-à-dire qu'on peut mélanger un renforçateur avec une récompense, par exemple. Un renforçateur, ça peut être... Les principaux renforçateurs pour l'enfant, c'est la félicitation, l'encouragement, l'attention portée à chaque fois que le comportement se manifeste. Et plus l'enfant est petit, plus ce renforcement affectif qui a lieu doit avoir lieu systématiquement, immédiatement après l'action et toujours en nommant ce qui a été bien fait et donc ce qui est renforcé. Donc voilà, ça marche très bien, d'autant qu'on le fait très régulièrement. Ça indique à l'enfant s'il est sur un chemin désiré qui peut aussi lui ressentir comme lui faisant du bien. Donc voilà, il y a renforcé, mais il y a aussi un apprentissage un peu technique qu'on n'apprend pas vraiment en fait. Donc parfois on fait bien, mais pas assez bien. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on peut lire et découvrir et qui peuvent nous apprendre en tant que parents à le faire.
Oui, j'allais vous poser la question des ressources, comme à Corinne Prézélus. Est-ce que vous avez des ressources à conseiller, alors à des parents, à des non-parents, à des collègues médecins généralistes aussi qui nous écoutent, qui peut-être ont envie de se renseigner sur ces sujets? Qu'est-ce que vous leur proposeriez comme ressources?
Alors effectivement, notre rôle étant d'assurer le suivi régulier des enfants, une fois qu'on a dépisté, repéré les violences éducatives, sensibilisé les parents, déculpabilisé, trouvé notre posture professionnelle à adapter en fonction de chaque situation, on peut orienter. Déjà, il existe des dispositifs d'accompagnement à la parentalité qui sont présents partout sur le territoire. On a les lieux d'accueil par enfant qui ont été cités. Il y a aussi l'école des parents et des éducateurs. Il y a les maisons des parents dans tous les départements. On peut aller du côté de la CAF qui propose sur leur site des ateliers de préparation à la naissance et à la parentalité. On peut solliciter l'Institut de la parentalité, qui est un organisme privé qui n'est pas encore présent partout sur le territoire. Il y a des numéros de soutien parentaux. Voilà, dans les cas, parfois, ça peut, on peut solliciter un technicien d'intervention socio-familiale. Voilà, il existe beaucoup de professionnels libéraux aussi qui sont formés à la psychologie de l'enfant et à la psychoéducation. Donc ça, ça peut être des ressources. Et puis après, nous, on s'est construit une boîte à outils. Alors, on diffuse des ouvrages. On a quelques noms, des podcasts. Il y a Lolita Rivet qui a été citée, La Maîtressence, mais il y en a d'autres. Il y a le podcast Parentalité aussi qui est très intéressant, et puis des outils à proposer de médiation. Il existe des sites internet, Mpedia par exemple, le site de l'Association française de pédiatrie, le site StopVO bien sûr, des sites qui permettent de proposer des outils, des tableaux avec des alternatives éducatives non violentes, des techniques de gestion émotionnelle. Moi j'ai la météo des émotions dans mon bureau, j'ai la technique de la tortue pour la gestion de la colère par le souffle. Il y a des petits guides de secours pour les parents, il y a des webinaires qui ont été faits à destination des parents. Tout ça, on leur donne la liste, on la diffuse à nos étudiants, parce que se s'outiller, c'est vraiment fondamental si on veut espérer un changement de pratique à l'échelle familiale.
Donc des outils que nous mettrons le plus possible. On ne pourra pas tout mettre, mais on en mettra quelques-uns en description de ce podcast. Nicolas, est-ce que vous avez aussi des propositions d'outils, de ressources ?
Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ce qui a vraiment changé ma façon de faire, y compris en consultation, c'est-à-dire que ma manière d'aborder la consultation avec un enfant, elle s'est transformée en me penchant sur ces sujets. Celui qui m'a le plus influencé, c'est Alan Kazdin, qui est un chercheur mondialement connu, qui a fait une multitude d'études psychocomportementales avec les enfants et qui a compilé depuis longtemps tout ce qui fonctionne. Par exemple, ce qui fonctionne, c'est que quand on demande à un enfant, en ayant une voix calme, avec un sourire, et en le touchant légèrement le bras, on augmente nettement la probabilité que l'enfant fasse ce qu'on lui demande. C'est aussi bête que ça. Et ça marche dans les études. C'est prouvé. Donc c'est une façon d'inciter. Donc Alan Kazdin, Éduquer sans s'épuiser, pour moi c'était une ressource qui a influencé ma pratique. Et ça permet que les enfants soient moins résistants aux examens cliniques, parce qu'on prépare avec un petit peu de jeu, avec un petit peu de relation, en mélangeant les outils de l'examen clinique avec d'autres jeux. En fait, on prépare l'enfant à passer un moment finalement normal.
On arrive déjà à la fin de cette émission, alors j'aimerais beaucoup vous demander un mot de la fin. On est très serré sur le timing, mais voilà, en quelques mots, s'il fallait retenir un message, ce serait lequel ? Se mettre à hauteur d'enfant ?
Se mettre à hauteur d'enfant, déjà, vraiment, aucune violence n'est tolérable, n'est justifiable. Frapper un enfant pour le faire obéir, ça revient à lui apprendre que la violence est normale, et ça, c'est sociétalement et psychiquement pour lui dangereux. Donc les violences éducatives ordinaires, elles reposent vraiment sur une mauvaise compréhension du développement de l'enfant, pas sur de la malveillance parentale. Et aujourd'hui, la science a démontré qu'on peut faire autrement, que ça protège les enfants et nous, les parents. Soutenir plutôt que sanctionner, respecter l'enfant, respecter ses droits, légitimer sa parole, s'engager en tout cas à l'échelle sociétale en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que citoyen, pour promouvoir une protection des enfants et une éducation sans violence, c'est vraiment essayer de favoriser une société plus vivable.
Pour les adultes de demain, surtout.
Exactement, et plus empathique. Et si je me permets, une dernière ressource que je voulais absolument citer qui est formidable, c'est tout le contenu que font la Fondation pour l'Enfance, qui a des BD, des affichages, des campagnes de sensibilisation, des jeux, des serious games en ligne pour les parents sur le développement de l'enfant. Donc je vous invite à aller voir leur site internet, il y a des outils très très pratiques.
Donc téléchargeable en plus sur le site de la Fondation de l'Enfance.
Exactement.
Super, je le rajoute en ressource. Nicolas, un mot de la fin pour conclure très vite ?
Moi, je vais continuer avec ma casquette de médecin généraliste. C'est-à-dire que moi, j'aimerais encourager tous les médecins généralistes à s'emparer aussi de ces questions éducatives. On n'ose pas forcément le faire, mais à partir du moment où on comprend que la violence, c'est toxique pour l'enfant, quelque part, c'est une question de santé. Donc, ça nous concerne aussi en tant que médecin. Donc, apprendre, comprendre à le faire et aider les parents là-dedans. Et puis, encourager les parents à aller aussi vers les médecins généralistes. C'est un interlocuteur parmi plein d'autres, évidemment. Beaucoup d'autres, ça va dans le bon sens, et je reprendrai le message aussi de Lolita Arrivé, c'est-à-dire de dire changer le regard sur l'enfant qui est une vraie personne.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à Maëlle Guidou et à Nicolas Homais pour avoir répondu à mes questions sur les violences éducatives ordinaires et pour leurs témoignages. Merci également à l'association À l'abordage de Nantes et à Corinne Prézélus. Cette émission a été réalisée grâce au soutien du CHU de Nantes. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur lelabodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à très vite pour une nouvelle émission.
Just wanna tell you 101.5 FM.